Alors, ce Radio Bac numéro 2 de notre saison a pour invité Jacques Bascou, comme je le disais tout à l'heure. On va revenir sur plein de points qui ont déjà été évoqués, mais rappelons quand même, c'est parce que c'est, je pense, indispensable sur le plan pédagogique, que vous êtes président de l'agglomération, la communauté d'agglomération, chose que pour la plupart des gens, des citoyens, des auditeurs, ça n'est pas forcément très très clair. Or, aujourd'hui, une foule de compétences qui régissent notre vie quotidienne sont non plus des compétences municipales, mais des compétences communautaires de l'agglomération, l'économie, une grande partie de l'environnement, l'habitat social, par exemple, HLM, etc., etc. Et il est difficile de les passer tous en revue. Et donc, petit à petit, tout ça s'est mis en place. Il y a, d'une certaine façon, une sorte de révolution silencieuse qui s'est faite au cours des années, mais qui n'est pas forcément toujours bien comprise par les citoyens. Alors, Jacques Bascou, donc, vous présidez cette agglomération. On va revenir peut-être d'emblée sur la notion de finance, alors diminution, pas diminution. Tout à l'heure, quand Michel évoquait ce sujet, vous aviez l'air d'avoir des choses à dire et des désaccords à exprimer. Alors, Jacques Bascou, on vous écoute.
Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les différents développements donc de Michel Santo. Si on considère donc les finances locales, c'est vrai que il avait été demandé aux collectivités locales de participer à l'effort de redressement national, et donc dans le précédent gouvernement, c'était 11,5 milliards qui avaient été ponctionnés sur les collectivités. Mais il faut regarder localement les conséquences, et comme l'a dit Michel Santo, il y a un certain nombre de compensations. Ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a des baisses de dotation globale de fonctionnement, il y a des baisses de certains fonds, mais je pense que c'est, vous l'avez dit, aujourd'hui les agglomérations ont des compétences nouvelles, c'est plus des super syndicats qui amènent des services, même si on continue à amener des services, et on doit assumer totalement nos compétences, même si souvent c'est flou, et les compétences qui nous ont été octroyées, il y a plusieurs échelons aujourd'hui, et quelque part c'est une déperdition de finances. Mais pour en revenir, si vous voulez, à l'équilibre donc des budgets, on a la possibilité de trouver d'autres subventions. C'est le cas, par exemple, de notre territoire, qui est territoire énergie positive. On a eu 1 million de subventions pour porter nos projets, et on a eu, par exemple, 500 000 deuxième projet. On a également aussi des financements européens, notamment au sein de l'association Cœur du Languedoc. Nous avons eu 3,7 millions donc pour... voilà, donc si vous voulez, ça compense. C'est vrai aussi qu'il y a des bases fiscales qui sont dynamiques et qui amènent des recettes. Donc globalement, dans le passé, moi personnellement au niveau de l'agglomération, on n'a pas eu de baisse de dotation. Maintenant, là où c'est un peu plus subtil, c'est que si vous voulez, ce que je vous disais, on a des compétences à donc assumer, et donc il faut de l'engineering, il faut du personnel et il faut monter des dossiers. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, c'est des financements qu'on doit prévoir dans les budgets de fonctionnement, que ce soit au niveau des salariés ou au niveau d'externalisation d'un certain nombre d'études pour pouvoir justement avoir ces financements. Et ça, si vous voulez, c'est pas aujourd'hui prévu, et on nous demande de limiter la masse salariale, on nous demande au niveau de la Chambre régionale des comptes aussi de rester dans des trucs. Donc si on veut assumer certaines compétences nouvelles, il nous faut un peu plus de moyens, notamment des moyens d'ingénierie. C'est pour ça que si l'équilibre est à peu près respecté, et là on va avoir une ponction de 13 milliards. Je vous prends un exemple. Au niveau de l'agglomération, nous avons la compétence de l'eau et de l'assainissement. C'est plus de la moitié, tout budget confondu, plus de la moitié qu'on a investi ces dernières années pour les stations d'épuration, le renouvellement des réseaux, des choses qui ne se voient pas, mais qui sont essentielles pour la qualité de vie de nos concitoyens, également aussi les rejets de l'environnement. L'agence de l'eau nous finançait, notamment nous avions des primes sur les stations d'épuration. C'est 500 000 euros qui nous seront supprimés l'année prochaine. Sur les investissements également aussi, nous n'aurons plus d'aide. Ce qui veut dire, si vous voulez, parce que là, au niveau national, l'agence de l'eau, bassin de Méditerranée, est ponctionnée pour financer l'Office national de la chasse, les parcs nationaux et l'agence de biodiversité. Donc si l'agence de biodiversité nous aide dans des projets, effectivement, ça sera une bonne chose. Mais pour le moment, c'est l'incertitude. C'est la raison pour laquelle, moi j'attends de voir un peu quelles sont les réformes qui vont être mises en place. Pour le moment, on n'a pas... Et effectivement, on a eu des équilibres, si vous voulez, dans nos budgets, mais je suis relativement inquiet dans la mesure où on n'a pas de vision très claire de l'avenir.
Alors, juste alors un tout petit mot, Michel, là-dessus.
Non, simplement pour, encore une fois, insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de demander aux collectivités locales de diminuer en absolu, en fait, leurs dépenses. La diminution, c'est par rapport à l'évolution en fait, naturelle des dépenses, qui est de 2%.
Donc il faut, comme on disait, je ne sais plus trop qui, ralentir l'accélération. Voilà,
c'est exactement ça. Donc, s'il vous plaît, oui, ne faites pas 2% par an de plus, simplement 1,2.
Oui, mais je vais vous dire...
C'est pas une diminution.
Alors, Jacques Bascou,
je vais vous prendre un exemple.
C'est pas une diminution.
Vous savez que la CSG, donc, aujourd'hui,
augmenter.
Va augmenter. Bon, sur le privé, mais quid des collectivités locales? Aujourd'hui, nos salariés vont avoir des pertes de salaire.
Bien sûr.
Comme
les autres.
Qui compense? Est-ce que c'est effectivement la collectivité, l'agglomération? Et à ce moment-là, on va avoir une augmentation de la masse salariale. Il faut souligner que souvent, l'État impose, ce qui est bien, des augmentations de salaire, notamment pour les catégories C. D'un côté, on va augmenter, et donc ça nous coûte chaque année, on a le glissement vieillesse, technicité, enfin je ne veux pas être trop technique, mais il y a des mesures qui sont prises, qui ne sont pas de notre fait, qui alourdissent la masse salariale. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis,
n'échappez pas.
Si l'État compense, si vous voulez, l'augmentation de la CSG pour les fonctionnaires, ça sera une opération neutre. Mais s'il ne le fait pas, c'est un problème dans la mesure où, si vous voulez, c'est le pouvoir d'achat, c'est effectivement la consommation. Voilà, donc c'est le problème. Après, qu'il y ait des conventions signées par les plus grosses collectivités, parce que ça, là, vous avez raison, c'est les grosses collectivités, effectivement,
c'est
qui participent. C'est une réalité. Mais c'est d'ailleurs, je pense que ni l'agglomération de Narbonne, ni de la ville de Narbonne ne seront impactées.
Exactement.
Parce qu'il y a un certain nombre de critères, notamment pour la ville de Narbonne et le potentiel fiscal, qui fait que Narbonne devient échappée, et nous ne serions pas, donc, parce que ça serait en principe pas forcément les 319, mais plus de 150 000 habitants. Donc nous ne serions pas impactés.
Oui, c'est ça. Oui. Deux tiers.
Alors tout à l'heure, Michel faisait une situation à mi-mandat, une situation politique locale. On va revenir après sur les projets concrets que vous gérez, Jacques Bascou, mais sur cette partie politique politicienne, on se souvient que vous avez, il y a peu de temps, juste un petit peu avant la présidentielle, quitté le Parti socialiste, ce qui était... On parlait de bouleversement tout à l'heure, ce qui en était un aussi, dans la mesure où vous êtes socialiste depuis fort longtemps, et que vous aviez exprimé à ce même micro, d'ailleurs, un certain nombre de griefs. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous de votre réflexion, et quel regard jetez-vous sur l'avenir au niveau politique politicien, parce qu'on n'y échappe pas non plus?
Bah écoutez, oui, j'ai quitté le Parti socialiste pour des raisons qui sont relativement, disons, anciennes, que j'avais d'ailleurs exprimées bien avant les élections, puisque finalement, les résultats des élections, que ce soit les présidentielles ou les législatives, je les avais quand même anticipés. Bon, je suis parti du Parti socialiste, comme Hamon est parti du Parti socialiste, comme Valls est parti du Parti socialiste, et comme d'ailleurs Peillon a pris du recul, quoi. C'était ceux qui étaient donc aux primaires, donc il y a quand même un malaise.
Ne parle pas de Montebourg.
Oui, Montebourg qui est parti. Mais bon, moi je vois des gens que je respecte tout à fait, comme Cazeneuve, qui était donc ministre de l'Intérieur, qui pour moi a beaucoup de qualité, qui a également aussi pris du recul et repris sa profession d'avocat. Donc je pense qu'il y a un malaise, c'est pas uniquement Jacques Bascou qui a décidé, pour X raisons, et surtout des raisons locales, de partir du Parti socialiste. Mais je crois qu'aujourd'hui, le paysage, je pense qu'il y a la place en France pour un mouvement, disons, socialiste, social-démocrate. C'est effectivement un débat que l'on peut avoir. Mais vous dites que je suis ancienne dans le Parti socialiste. Moi, j'étais pas à Épinay en 71, mais j'étais au Parti socialiste en 73. Et donc, il a fallu 8 ans pour effectivement construire un projet, parler d'alliance, qui a abouti à la victoire de François Mitterrand. Donc, je pense qu'il faut du temps pour construire un mouvement politique, mais je pense qu'il y a la place pour un mouvement politique. Je ne pense pas aujourd'hui, si vous voulez, qu'au niveau national, on soit dans ses préoccupations, puisqu'on est dans des enjeux de pouvoir encore, et également aussi l'œil rivé sur des élections. Même si on n'a pas été concerné ici, les dernières sénatoriales au niveau national ont montré un exemple que la préoccupation, c'était pas la refondation des idées, mais c'était des enjeux de pouvoir.
Voilà,
donc je pense est-ce qu'il faut un certain temps pour que les choses se reconstruisent.
Et sur le plan local, puisque le Parti socialiste, on le sait, à Narbonne est implanté de façon traditionnelle et depuis fort longtemps, bien avant Épinay, comment jugez-vous cette situation justement en vue des prochaines élections? Parce que forcément, vous devez y penser aussi.
Oui, il est évident que la situation que je décris au niveau national a des répercussions localement, et donc il y a des pertes de militants. C'est d'ailleurs les partis traditionnels qui ont aujourd'hui ces difficultés. Ensuite, si vous voulez, moi, j'étais dans une logique plus de rassemblement. Hein, c'était d'ailleurs l'idée de Gemma Narbonne, où je pensais que pour le local, il fallait à un moment rassembler les énergies. C'est d'ailleurs ce que je fais au niveau de l'agglomération, hein, même si ça a été décrié, puisque dans ma majorité, les gens qui votent le budget, il y a des gens différents, mais qui se sont entendus sur un projet, sur une méthode de travail, et qui ont un objectif, et qui ont une finalité. Nous avons voté un projet, Grande Narbonne 2030, donc qui a été voté à l'unanimité. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est d'avoir une lisibilité et de ne pas avoir les yeux rivés sur les élections.
Et à Narbonne, vous semble-t-il qu'il y ait encore des socialistes qui croient à l'avenir, qui essaient de construire cet avenir?
Oui, il y a des socialistes, j'en suis sûr, mais moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait surtout des Narbonnais qui croient à l'avenir. Et l'avenir de ce territoire, qui a des atouts, qui bouge, qui se développe, contrairement à ce qu'on peut dire. Mais pour cela, je pense qu'il faut rassembler. On est dans une concurrence de territoire, on est bien placé au niveau de la région Occitanie. Mais à un certain moment, je pense qu'il faut arrêter les petites polémiques et les chicaillades qu'on voit régulièrement développer. Et pour moi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de pouvoir rassembler. C'était l'idée de Gemma Narbonne, et par rapport à l'analyse que vous avez faite, il faut, je crois, des gens un peu nouveaux, parce que ce qui se passe sur Narbonne, c'est des gens qui viennent, 1000 à 1200 personnes par an, des acteurs économiques essentiels qui développent des filières, mais qui ne sont pas dans la vie sociale, qui ne sont pas dans la vie politique. Et donc je pense aujourd'hui qu'il faut aller dans ce sens. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer bien sûr sur des convictions, sur des valeurs, mais il faut surtout mobiliser des personnes qui sont en capacité d'assurer un avenir à nos enfants.
Une petite remarque, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si ça a une signification plus profonde, mais le Grand Narbonne a produit, si vous me permettez l'expression, deux députés La République en marche, M. Perea et votre ancien directeur de cabinet, M. Portarieux. C'est assez surprenant, finalement, de voir la productivité vis-à-vis du mouvement Macron qu'a eu cet agglo.
J'ajoute, c'est du plan Jean-Claude, en fait, l'ancienne chargée de la communication de Michel Moynier, en fait, à Narbonne, qui a été élue, en fait, en marche aussi, en région Provence-Côte d'Azur.
Ah, bon,
ça fait beaucoup, hein, je crois.
Voilà, sur Narbonne, si vous voulez, les deux, là, dont vous faites état, Alain Perea, qui est quelqu'un qui avait, justement, dans la continuité de ce que je viens de dire, qui avait, travaillé sur le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire un schéma de développement sur le territoire, et donc, qui a une bonne connaissance du terrain. Vous avez également aussi Jean-François Portarieux qui était à l'origine toulousain. Je crois que même si moi je ne suis pas en marche, hein, les choses doivent être claires parce que j'attends de voir. Autant je suis d'accord sur la nécessité de réformer, ce que j'ai un peu reproché à François Hollande, de ne pas dans les premières années de son mandat d'avoir modifié un peu les choses, notamment au niveau des collectivités et de la décentralisation. Aujourd'hui j'attends de voir ce qui va se passer, mais en tout cas les relations que je peux avoir et avec Jean-François Portarieux, avec Alain Perea, je pense, seront intéressantes pour notre territoire.
Oui, de toute façon, ce sont des hommes déjà que vous connaissez, avec lesquels, vous l'avez souligné, vous avez des atomes crochus.
Ah oui, tout à fait. Dans la vision, si vous voulez, dans une vision de développement du territoire, dans une vision économique, dans une vision de rassembler un certain nombre d'acteurs, je vous signale, vous savez qu'il y a un comité de développement qui est commun au parc naturel et qui est à l'agglomération. Ce comité de développement, c'est des acteurs économiques donc je parlais différents qui ont tiré le territoire que ce soit dans le domaine viticole, dans des domaines industriels, et c'est un peu Jean-François Portarieux qui était la cheville ouvrière de ce CODEV. Donc ce sont des gens qui ont la vision que j'ai développée tout à l'heure.
Oui, un comité qui est présidé par l'ancien directeur de la clinique Garbet, je crois.
Monsieur Rémy. Voilà, mais vous avez aussi des gens comme Mariette Gerbert de l'INSERM, vous avez Monsieur Gabanou, vous avez Gérard Bertrand, Joël Castagny, ce sont des gens, on peut avoir des nuances sur un certain nombre de trucs, mais qui sont quand même des gens qui tirent le territoire.
Des acteurs importants, économiques de ce territoire, incontestablement.
Et j'en oublie beaucoup.
Vous parlez beaucoup, Jacques Bascou, de rassemblement. Or, on sait, tout à l'heure, ça a été un petit peu évoqué encore, sur le plan politique-politicien, alors il y a une polémique qui est quasi sempiternelle à Narbonne entre l'agglo et la ville. Alors elle est entretenue, elle est voulue, quelle signification a-t-elle? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Je ne sais pas. Continuellement, par exemple, M. Mouly reproche à l'agglo telle ou telle ou telle chose. Puis bon.
Oui,
Et vous reprochez à M. Mouly telle ou telle autre chose.
Oui, mais je pense, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agglomération. Après, il y a des polémiques. Mais d'ailleurs, dans l'analyse que vous avez faite, il y a la réponse. Didier Mouly, à mi-mandat, a dit qu'il serait candidat la prochaine fois. Didier Mouly et le mouvement Nouveau Narbonne, ils n'ont pas arrêté la campagne électorale. Et d'ailleurs, je dois avouer qu'ils sont pas mauvais en campagne électorale sur la communication, sur des contre-vérités. Ben oui, si vous voulez, ils sont bons, ils ont été bons dans la campagne parce qu'ils ont été dans l'opposition. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a une réalité. Quand on se heurte à la réalité, effectivement, c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de Narbonnais qui sont mécontents parce que, après avoir fait de la démagogie, donc il faut qu'ils soient dans l'opposition. Et ils sont bons dans l'opposition. Et pendant ces 6 ans, au lieu de nous dire ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, parce que je trouve qu'ils font pas grand-chose, ils sont dans l'opposition à Jacques Bascou. Et c'est leur tactique électorale. Et jusque d'ailleurs, tous les jours, c'est ça. Voilà. Alors après, moi, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je ne vais pas répondre, même si quelquefois, c'est un peu dur dans la mesure où il y a des contre-vérités qui sont répandues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du territoire. Alors, vous direz, puisque j'entends la question, si je serai candidat, pour le moment, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai été élu pour 6 ans pour faire avancer des projets. Après, on verra lors des échéances si il y a quelqu'un qui porte avec qui je suis en phase pour porter un projet. Si j'ai un rassemblement, comme je le dis, qui soit en capacité, effectivement, d'avoir une majorité de gestion et pas une majorité contre. Je sais bien que toutes les élections, on vote contre et on vote pas pour. Mais moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, à mi-mandat, c'est l'agglomération. Hier, véhicules électriques, transition énergétique, ça c'est effectivement des priorités. Ces zones d'activité, la semaine dernière, d'Armissan qui est inaugurée, avoir des entreprises qui s'installent. Moi, je rendrai mon bilan. Et donc, en fonction de ce bilan, on verra. Voilà. Après, je trouve qu'en France, et d'ailleurs, c'est la difficulté de notre pays, on est toujours en élection. Dans la mesure où le rendez-vous des élections suivantes, c'est pas sur l'élection elle-même, mais c'est sur l'élection précédente. Aujourd'hui, il y a une déperdition, que ce soit au niveau local, au niveau national, une déperdition des énergies sur finalement des choses secondaires qui entraînent une super communication, une hyper communication, et aujourd'hui on n'est plus sur le fond, on n'est plus sur le projet. Je ne veux pas être trop long, mais vous avez parlé du quartier, si vous voulez on y reviendra, mais je crois que vous vouliez intervenir là-dessus.
Un dernier point politicien, en tout cas en ce qui me concerne, vous dites on verra. Ça veut dire que je comprends bien que ça ne soit pas votre souci actuel majeur, mais dans 3 ans et demi, si à un moment on faisait appel à vous pour mener une liste, est-ce que vous l'excluriez ou pas?
Écoutez, moi, dans la mesure où les conditions, je ne les connais pas, donc vous dites, si je vous dis je suis candidat, automatiquement on part en campagne.
Bien sûr.
Donc,
tactiquement, parce que, pour vous, c'est pas bon.
Si vous voulez, je comprends, que ce soit les médias, que ce soit vous-même, vous alimentez un peu de ça. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la préoccupation des Narbonnais? Est-ce que les Narbonnais pensent que dans les 3 ans qui viennent, il faut qu'on parte en campagne électorale? Moi, je ne le pense pas.
Voilà. Oui, un mot, Michel.
Oui, non, c'était pour rebondir un peu sur la dernière remarque. C'est difficile. Si on faisait appel à vous, non, ça se passe jamais comme ça, en fait, en politique. Quand on fait appel à quelqu'un, c'est que le quelqu'un en question a déjà créé les conditions pour qu'on fasse appel à lui. Donc, la question est dans la réponse, est dans la question que tu poses, Jean-Claude. Non, simplement, moi, ce que j'ai noté dans l'intervention avant la dernière de Jacques Bascou, c'est qu'il faisait observer qu'il fallait que les têtes changent, qu'il fallait faire appel effectivement à de nouvelles générations. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant la campagne des présidentielles et des législatives. C'est-à-dire que la sanction a été des Français, ça a été effectivement sur... de manière forcément injuste, hein, ça a été de sanctionner des têtes qui, dans leur esprit, représentaient effectivement le passé, une certaine façon de gérer la politique.
Oui, mais dans l'histoire...
Je suis tout à fait d'accord. Quand je redis les conditions, c'est vrai que moi, je fais partie, pas forcément du passé, parce que je pense que j'ai des idées d'avenir, mais c'est vrai que j'ai été député, j'ai été maire, hein, donc je peux effectivement avoir une image de quelqu'un du passé, voire de politicien. C'est ce qui m'est renvoyé régulièrement. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, c'est honnêtement, aujourd'hui, je pense, je me suis engagé avant d'être élu, je me suis engagé dans mes mandats, je continuerai à m'engager différemment peut-être, tout dépend, ce que je vous disais tout à l'heure, de l'évolution politique au niveau national, parce que je crois qu'à un certain moment, le collectif est important, il faut qu'on s'insère dans des mouvements, on ne peut pas sauver la planète tout seul. Donc, j'entends, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, je suis pas candidat. Bon, Didier Mouly, j'ai vu qu'il était candidat. Je suis pas sûr par rapport à la présentation un peu idyllique que vous avez faite en disant que il a tout pour lui. Je souhaiterais savoir s'il a vraiment tout le monde derrière lui. Si je regarde au niveau du conseil municipal, les défections qu'il y a eu, les démissions qu'il y a eu, et puis ce que tout le monde sait, qui se dit sous le manteau, les divisions qu'il y a, je suis pas persuadé que peut-être ça sera, en tout cas, même s'il est candidat, celui qui portera soit une continuité, soit un mouvement majoritaire. Donc après, moi, si vous voulez, moi ça m'intéresse pas. Vous m'avez jamais vu mettre dans la presse ou faire des articles. Je pense que dans toutes les équipes, effectivement, c'est toujours très difficile de gérer. Ensuite, il fait des choix qui ne sont pas les miens, mais je les respecte. Aujourd'hui, encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire une majorité sur Narbonne qui soit une majorité de rassemblement et une majorité de projet.
Voilà. En tout cas, merci Jacques Bascou. Le suspense restera entier, mais c'est très bien ainsi. Je rappelle simplement...
Je rappelle simplement,
Michel, qu'il y a aussi parfois en politique des retours surprenants. Je n'en dis pas plus. J'annonce le prochain invité, ou plus exactement la prochaine invitée. Il s'agit de Nanping Gao, une dame d'origine chinoise, qui est la directrice actuelle du domaine La Bastide, du château La Bastide, à Escale, à côté de Lézignan, un groupe qui est, lui, justement, un domaine qui est
que je connais bien, qui a un parcours remarquable.
Voilà, absolument, par un groupe chinois qui est propriétaire aujourd'hui de ce domaine et qui viendra nous en parler. Merci en tout cas aux auditeurs, merci Jacques Bascou et à la semaine prochaine.
Merci à vous.